Salut à tous les amis et bienvenue comme il se doit et comme à chaque mois sur Original Sound Bloggers. Vous écoutez le 11e épisode et nous sommes en décembre 2013. Qui dit mois de décembre dit bilan. Nous allons vous proposer donc un bilan des meilleures musiques à notre sens de l'année 2013, pas forcément des meilleurs jeux d'ailleurs. À mes côtés, évidemment, il y a toujours Vicport. Comment ça va?
Ça va, Imhotep, tranquille, toujours pareil. Décembre, il fait froid, il y a du verglas et je me casse la gueule quand je vais en cours, c'est super.
Monsieur habite dans un pays qui n'est pas vraiment la France, qui s'appelle Valenciennes.
Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver, comme dirait l'autre.
Et à nos côtés, nous avons, comme chaque mois, Onink. Et Onink, comment ça va? Est-ce que t'es enrhumé ce coup-ci?
Salut à tous. Eh bah ben, oui, figure-toi que ça va très bien. Pour une fois, je suis pas malade, donc j'aurai pas une sale voix de canard pendant le podcast.
Très bien, très bien. On le rappelle, décembre, il fait froid, mais il y a surtout de très bons jeux qui sont sortis cette année. Et il y a de très très bonnes soundtracks, de très très bonnes musiques de jeux qui sont sorties également. À commencer par celle que vous entendez en fond, le jeu de l'année à en croire quasiment tout le monde, GTA V. Donc GTA V, le fameux, le ultra attendu, celui dont on a parlé partout. Donc le morceau qu'on écoute en fond s'appelle No Happy Endings et nous a été proposé par Onink. Pourquoi as-tu choisi la musique de GTA V?
Eh bien, tout simplement parce que j'ai joué à très peu de jeux cette année et un des rares auxquels j'ai joué, c'était GTA V, puisque c'est vraiment un immanquable de l'année 2013, un jeu qu'on attendait depuis super longtemps. Donc bon, je crois qu'on en a suffisamment dit sur le jeu un peu partout. Moi, je dirais juste que j'attendais peut-être un petit peu plus du scénario, qui m'a un petit peu déçu et qui a pas vraiment de fil conducteur, accrocheur ou même d'enjeu capital. On suit l'histoire de ces trois petits malfrats qui enchaînent casse sur casse, mais au final on se laisse pas vraiment emporter par l'histoire, c'est un petit peu dommage. Mais ce petit point mis à part, j'ai bien pris mon pied et la musique a bien aidé. Comme toujours, on a des radios avec des super playlists, il y en a pour tous les goûts. Mais aussi pour la première fois dans la série, à l'image de Red Dead Redemption qui avait déjà instauré ce système, on a des musiques spécialement composées pour le jeu. Donc on les entend généralement dans les courses-poursuites, les phases d'action, pendant certaines cinématiques ou certaines missions. Donc c'est surtout des musiques électro assez classieuses, des pistes, des nappes qui se superposent en fonction de l'intensité de l'action et ça rend vraiment super bien. Ça fait un peu penser aux musiques du film Hit, pour citer que lui par exemple. Donc celle que j'ai choisie, c'est une des plus emblématiques du jeu, puisqu'on l'entend dans une mission vraiment très classe, une sorte de tournant dans l'histoire. Je peux pas en dire plus pour éviter le spoil, mais déjà que le décor dans cette mission est vraiment... ça laisse bouche bée. La musique en rajoute une couche, crée une atmosphère vraiment, vraiment prenante. C'est pour ça que j'adore ce morceau.
Moi, ayant fait Hotline Miami il y a pas très très longtemps, la musique me rappelle beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Et un peu ambiance des fins des années 80, un peu début de l'électro, techno, tout ça.
Un peu de ça, ouais.
Début des boîtes de dance, Chalamar, ça. Bon, donc GTA V, unanimement, de toute façon, un jeu qui a marqué son époque déjà en même pas 2 mois qu'il est sorti. D'ailleurs, vous, votre jeu de l'année 2013, sans forcément extrapoler, sans forcément aller au bout de la discussion, en 3 mots, quel est votre jeu de l'année?
On va dire qu'il y a 2 types de GOTY, c'est-à-dire il y a ceux qui sont sortis cette année et ceux qui ne sont pas sortis cette année, mais auxquels j'ai joué cette année. Alors, en sortie cette année, il va y avoir une grosse lutte entre Papuanio et Stanley Parable. Papuanio, parce que j'ai trouvé que c'était un jeu vraiment sous-noté, avec une direction artistique assez dingue, qui nous emmène dans les favelas brésiliennes sur une super musique très très ethnique, une vision assez surréaliste des favelas, avec une déconstruction de l'univers par le rêve dans lequel le personnage évolue. Et tout le jeu en fait un parallèle avec le père du héros, qui est un homme violent et alcoolique, qui tabasse son gamin. Et du coup, il y a toute une émotion qui est mise en place avec ça et qui est super bien rendue, qui est jamais trop dans l'excès, qui est toujours très bien dosée. Et à mon avis, c'est un jeu à faire et qui a vraiment été sous-noté par la presse, et c'est bien dommage. Stanley Parable, ben, pour tout son concept, en fait, le fait de pousser à l'extrême les choix du joueur, de les critiquer, de voir comment finalement on peut être manipulé par un système. Pour son écriture, parce que c'est très très drôle. Ça fait longtemps que j'avais pas autant ri sur un jeu, à part Portal 2. Parce qu'il y a des trouvailles géniales, parce que c'est tellement inattendu que c'est super cool. Et puis il y a un truc qui va étonner pas mal d'entre vous, vu que d'habitude c'est pas mon type de jeu. J'ai adoré Max Payne 3, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça hyper jouissif, avec une mise en scène de dingue, des décors absolument extraordinaires, ils arrivent à rendre une ambiance dans des couloirs qui est assez dingue. Et voilà, c'était comme un bon gros die-hard des familles au Brésil, en butant la moitié de la population brésilienne à chaque épisode, mais bon, c'était cool.
Et Onink, alors, dans ton cas ?
Alors, bah moi, j'ai pas l'embarras du choix, vu que cette année, je n'ai joué qu'à BioShock et à GTA V. Donc, oui, ma préférence va à GTA V, parce que BioShock, je l'ai pas vraiment accroché, notamment l'histoire que j'ai trouvé qui part un peu en live au milieu. J'ai pas vraiment aimé la manière dont le sujet se dévie un peu vers les réalités alternées, les choses comme ça, ça m'a pas vraiment plu. Par contre, les jeux qui ne sont pas sortis cette année, j'en ai fait pas mal. J'ai un joli petit trio, à savoir FF6, To The Moon et Spec Ops The Line, qui sont trois jeux qui ont des histoires qui m'ont vraiment touché. Donc trois jeux radicalement différents, mais avec des gameplays assez classiques. Donc un pur RPG pour FF6, un pur TPS pour Spec Ops, et un pur jeu où on fait rien du tout pour To The Moon, où on se contente juste d'avancer et à parler à trois PNJ, mais ça marche quand même et on se prend bien à l'histoire. Et c'est vraiment trois jeux qui m'ont beaucoup marqué.
Bon, à part ça, ben moi, je vous avouerai que mon jeu de l'année, c'est aussi un jeu qui est sorti cette année, c'est Antichamber, alors qui a été, c'est un jeu qui est très très étrange, qui a pas forcément été apprécié par tout le monde justement pour ça, mais que moi, voilà, en bon scientifique, en bon mathématicien, en bon mec qui aime bien se creuser la tête, Antichamber, je l'ai surkiffé. Et je remercie Waldo Tari qu'on avait invité, si vous vous souvenez, lors du 5e épisode sur la forêt. C'est lui qui m'a offert le jeu et je l'en remercie grandement parce que c'est vraiment une pure découverte. Après, dans les jeux qui sont pas sortis cette année, j'ai fait FF7. Voilà, FF7, grand jeu. The Binding of Isaac qui m'a pris beaucoup de temps, donc je suis obligé de le citer. Et dans les jeux sortis cette année aussi, il y a quand même une petite perle. Alors j'en ai pas fait beaucoup cette année, j'ai fait Wonderful 101 Antichamber. Et le troisième jeu que j'ai fait, c'est celui dont on va parler maintenant. Il s'agit de Rayman Legends. Rayman Legends qui est juste dans la pure lignée de Rayman Origins, qui était déjà extraordinaire. Donc il faut aimer évidemment le plateforme, il faut aimer ce genre d'univers là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas, mais Rayman Legends est un excellent jeu. On va essentiellement parler, alors toutes les musiques sont de Christophe Héral, rappelons-le, mais là on va parler non pas d'une musique de Christophe Héral, mais d'une musique qu'il s'est contenté de remixer. Mais c'est un peu la musique emblématique de Rayman Legends, c'est Castle Rock, ce niveau musical donc au son de Black Betty de Ram Jam, un level design superbe, c'est un niveau qui a vraiment marqué totalement les esprits, le gameplay est totalement incrusté dans la musique, c'est vraiment superbe. Vous les gars, Rayman Legends, vous l'avez fait ou pas?
Non, j'aimerais beaucoup. J'ai un peu touché à la démo qui m'a un peu mis des étoiles dans les yeux, tellement graphiquement ça claque, mais à un point assez hallucinant. C'est vraiment superbe, quoi. Il y a vraiment ce côté fait main qui est assez remarquable, qu'on voit généralement dans les voice techniques. Et là, d'arriver à le retrouver dans un jeu de plateforme qui va très vite, ça fait vraiment plaisir. Puis la BO est complètement jouissive. Puis moi, j'ai un attrait particulier avec Michel Ancel et Christophe Héral, qui à chaque fois que j'écoute ces mecs parler, je trouve qu'ils ont vraiment un côté vraiment sympathique, et tu sens qu'ils ont envie de mettre vraiment tout ce qu'ils ont envie dans leur jeu sans se poser trop les questions des limites commerciales, etc. quoi.
Tu l'as dit, les graphismes sont vraiment super chouettes, sont vraiment super bien faits. Et par rapport à d'autres jeux où ils ont tout mis dans les graphismes mais où il n'y a rien dans le gameplay, là je trouve que justement, bon certes c'est quand même assez similaire à Rayman Origins, mais il y a du gameplay, il y a de la rapidité, il y a de l'humour, il y a tous les éléments qui font que Rayman Legends est un pur bon jeu. Et donc pour ceux qui n'étaient pas encore au courant que ce jeu existait, on va écouter tout de suite Castle Rock, le thème du niveau Castle Rock, donc la reprise de Ram Jam, Black Betty. On se retrouve après pour parler d'un peu plus de jeux de l'année 2013.
Come on.
babili babalou, comme dirait Rayman. Donc vous venez d'écouter Castle Rock, une musique qui a une pêche monstrueuse déjà de base, mais alors avec la version Rayman, ça donne vraiment... En plus, faut vraiment jouer au jeu pour que ça prenne tout son sens et pour avoir les images en tête. Rayman Legends, vraiment un des jeux de l'année à mon sens. Alors là, ça va être full Victor là, hein, pour la présentation des prochains extraits. Des jeux... Alors, il y en a un que je connais pas du tout et un que je connais un peu plus. On a déjà parlé de celui que je ne connais absolument pas du tout et Onink non plus. Le jeu s'appelle Night of the Rabbit. La nuit du lapin. Vous écoutez en fond un morceau qui s'appelle Title Melody. Victor, fais-nous découvrir ce jeu que je ne connais absolument pas.
Alors, Night of the Rabbit, il est sorti un peu dans l'anonymat, mais je pense que les créateurs doivent vous dire quelque chose. Ça a été fait par une équipe allemande qui s'appelle Daedalic Entertainment, et c'est les mecs qui ont fait Deponia. Est-ce que vous connaissez cette série ou pas?
Voilà. Moi ça me parle pas, non, mais bon, c'est pas grave.
C'est une série de jeux d'aventure point and click assez humoristique avec un design assez cartoon. Et ces mecs-là sont spécialisés dans le point and click justement. Et Night of the Rabbit, comme tous leurs jeux, en fait, c'est fait remarquer par ses graphismes. C'est vraiment un jeu qui est magnifique graphiquement. Tu sens le côté fait à la main, assez cartoon, très très coloré. L'écriture est un peu en dessous de leurs autres jeux, ce qui est un peu dommage. Mais il a pour lui voilà tout son univers, ses personnages assez attachants et surtout ses musiques complètement enchanteresses qui ont un côté un peu celtique je trouve.
Un petit peu, ouais.
Qui ont été composées par Thilo Alpermann, un mec qui a fait que ça. Et je sais pas, je trouve que je l'ai pas encore fait Night of the Rabbit parce qu'il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Hein. Il coûte 30€ donc c'est un peu élevé. Mais il m'attire bien parce que voilà. Les jeux d'aventure sont souvent réputés pour avoir des graphismes assez classe, et celui-là ne déroge pas à la règle. Ensuite, j'enchaîne avec Professeur Layton et, oui. Et l'héritage des Atlantes. Si vous avez écouté les anciens épisodes, hein, vous savez que j'adore cette série. Professeur Layton et l'héritage des Atlantes, c'est le dernier épisode de Layton sorti. D'ailleurs, c'est le dernier épisode qui contient Layton comme héros, donc on verra ce qui se passe. Apparemment, la série risque de passer sur un format iOS, Android, plus que sur 3DS. Bon, on verra ce que ça donne. Et il reprend tous les codes des anciens épisodes, en mieux, comme à chaque fois. Cette fois, comme l'indique le titre, on va aller un peu dans les fonds marins. Et la musique est toujours de qualité, comme à chaque épisode. Et à chaque Layton a un thème qui défonce. Il y a des vidéos sur YouTube qui compilent tous les thèmes de chaque opus. Et à chaque fois, il y a toujours ces mêmes instruments, accordéon, violon, et à chaque fois, ça claque comme pas possible. Et le thème du dernier est droit dans cette lignée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'à chaque fois, ils ont un côté jouissif, ces thèmes principaux.
C'est la force des gentlemen, quoi.
Ouais, si tu veux, oui. Si vous allez chercher sur Tumblr un peu, vous trouvez des trucs très glauques, des interprétations un peu glauques de Professeur Layton. Si vous voulez vous appuyer.
Non mais nous on les a vus et on vous invite à ne pas le faire ou alors à le faire à vos risques et périls hein, parce que malheureusement Victor nous a un peu contaminés. Donc Professeur Layton et l'héritage des Atlantes, on va écouter donc le thème principal du jeu qui est effectivement superbe et on vous laisse juger par vous-même si c'est la relève des thèmes de Professeur Layton, le magnifique thème qu'on a eu lors des 5 jeux précédents. À vous de juger et on se retrouve tout de suite. Le thème principal de Professeur Layton et l'héritage des Aslantes sur OSB, c'est toujours le 11e épisode, le bilan de 2013, nous sommes en décembre. Joyeux Noël à tous pour ceux qui vont bientôt avoir Noël. On souhaite pas bonne année en avance, hein, parce que ça se fait pas. En revanche, de l'année 2013, on a des choses à vous dire, et cette fois-ci, c'est Onink qui va s'y coller, c'était Victor tout à l'heure. Onink qui va nous parler là de deux jeux, de deux BO en tout cas. La première, c'est la BO d'un jeu qui s'appelle Amnesia, A Machine for Pigs. Le morceau s'appelle Mandus et a été composé par Jessica Curie. C'est un nom qui ne s'invente pas. Onink, qu'as-tu à dire sur cette BO qui, ma foi, est fort alléchante?
Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué qu'à BioShock et GTA cette année, donc je n'ai pas joué à Amnesia. Non, je n'ai pas joué à Amnesia Machine for Pigs, par contre j'ai joué au premier et j'ai pas été très loin, j'ai juste fait une partie avec des potes dans le noir et rien que là ça m'a suffi. C'est un vrai stress permanent et le pire c'est que généralement il se passe pas grand chose, c'est juste des petits bruits ou un objet qui tombe, des artifices qui suffisent à faire peur et voilà, rien que ça, ça m'a terrifié et j'ai plus envie d'y retoucher et la suite encore moins. L'OST en revanche est vraiment pas mal, notamment pour Machine for Pigs. C'est des musiques au piano très jolies, assez mélancoliques, pour s'accorder à une histoire assez tragique, il me semble. Donc voilà, c'est une belle réussite, comme Jessica Curie l'avait montré dans Dear Esther, qui comporte également des superbes musiques.
D'ailleurs, alors moi je trouve que ce thème qu'on entend en fond, la Mandus, en termes de composition, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Muse. Je sais pas si ça fait le même effet à tout le monde, mais voilà, le thème de piano, c'est vraiment typiquement ce que Muse utilise d'habitude.
Amnesia Machine for Pigs est assez différent en fait du premier Amnesia, ce qui a en fait créé pas mal de débats chez les fans. Parce qu'en fait, Frictional Games, donc les développeurs du premier Amnesia, ont travaillé avec pour le deuxième avec The Chinese Room. The Chinese Room, c'est les développeurs de Dear Esther. Les mecs de Dear Esther, c'est des gars qui savent très bien écrire des histoires, qui ont une sacrée maîtrise de l'ambiance. Le problème, c'est qu'en fait, ils savent pas faire de gameplay. Donc, le truc, c'est que ça se ressent énormément dans ce deuxième épisode. C'est-à-dire qu'il perd énormément en gameplay. Par exemple, il y a un truc avec la lampe, je crois qu'on peut porter la lampe en permanence. On n'est pas obligé de la baisser parce qu'on a un cooldown. Et en fait, il perd énormément en gameplay et il gagne en narration. Donc après, ça dépend ce que vous cherchez. En fait, si vous cherchez toujours l'aspect horrifique, très très stressant du premier Amnesia, ben, vous allez être déçu. Si vous cherchez un peu plus l'aspect scénaristique et la maîtrise du level design dans la narration, le deuxième épisode devrait plus vous convenir, mais je sais que ça a énormément divisé chez les fans de la série.
Ok, ben, on vous laissera faire votre propre opinion sur Amnesia Machine for Pigs pendant qu'Onink va continuer à garder la parole et va nous parler de son deuxième choix.
Donc Soul Sacrifice, voilà, je lâche le morceau. Donc la musique que j'ai choisie, c'est Hope and Future on the Same Page. Donc le jeu, je ne le connais pas. Je sais juste que la musique a été composée par Mitsuda et rien que ça, ça a suffi à attiser ma curiosité. Même si au final j'ai été sacrément déçu à l'écoute de l'OST, qui est très God of War dans l'âme, avec des gros cœurs, des morceaux très puissants, mais qui manquent un peu d'âme dans l'ensemble, je trouve. Ça donne des musiques assez lambda, assez passe-partout, qu'on pourrait placer dans n'importe quel blockbuster hollywoodien. C'est un peu dommage.
On a beaucoup parlé le mois dernier avec Castlevania notamment.
Voilà, bah, c'est un peu le même syndrome.
J'ai envie de dire que c'est pas forcément étonnant, étant donné que Soul Sacrifice c'est quand même un Monster Hunter-like. C'était le Monster Hunter de la PS Vita pour contrer un peu la folie Monster Hunter au Japon sur 3DS. Du coup, ça m'étonne pas vraiment que les musiques aient pris cette direction-là en fait.
Ouais, mais bon, il y a quand même quelques exceptions, heureusement, comme la musique qu'on va diffuser, qui est à l'inverse de la majorité de l'OST. Une chanson très douce qui m'a un peu fait penser à Nier, toute proportion gardée, et c'est assez joli, c'est envoûtant, même si bon, un petit peu mielleux sur les bords, mais moi j'ai bien aimé.
Soul Sacrifice, le morceau s'appelle Hope and Future on the Same Page. Il nous a été proposé par Onink dans son Best of des OST de 2013, et on continue notre Best of tout de suite après ce Soul Sacrifice.
Slow and this grow.
Et nous en sommes à peu près à la moitié de l'émission déjà, hein, donc OSB 11e épisode. On va continuer notre petit tour d'horizon de l'année 2013 en musique de jeux vidéo avec un des Game of the Year, un des jeux de l'année 2013, dont on a énormément parlé, notamment pour la ressemblance du personnage féminin principal avec Ellen Page qui tournait en même temps pour Beyond Two Souls.
On n'a pas parlé que de ça.
On n'a pas parlé que de ça, mais. Donc le dernier jeu de Naughty Dog, il s'appelle The Last of Us, et donc un jeu qui a énormément marché, qui a énormément marqué les esprits. The Last of Us, le main theme qu'on entend en fond, qui nous a été proposé par Victor.
Je n'ai pas joué The Last of Us, tout simplement parce que je n'avais pas de PS3 au moment où il est sorti, et j'avais bien les boules. Parce que son ambiance post-apo me tentait beaucoup. J'ai pas beaucoup aimé le Uncharted, mais je trouve que Naughty Dog avait une vraie maîtrise artistique sur The Last of Us, de ce que j'en avais vu. Et puis surtout, j'ai écouté la bande-son. La bande-son qui est de Gustavo Santa, oh là là, sans jeu de mots aucun. Et qui est un mec qui touche quand même un peu au niveau de la musique, parce que c'est le compositeur principal de Alejandro González Iñárritu, qui, pour les cinéphiles, est le mec qui a fait Babel, 21 grammes, par exemple. Ce compositeur, il a aussi fait la musique de Beautiful et Brokeback Mountain. On peut dire qu'il a pas fait que de la merde, quand même. Et la BO de The Last of Us, je trouve, est assez dingue dans la maîtrise de l'ambiance qu'elle propose. Il y a vraiment un côté très angoissant, très oppressant à chaque fois. Et puis il y a ce thème principal, tout à la guitare, qui est vraiment magnifique, vraiment film post-apo américain, dans la bonne tradition cinématographique, et ça claque pas mal, quoi.
Non, effectivement, moi, mais c'est marrant parce que moi ça me rappelle un petit peu la BO de Red Dead Redemption.
Un peu, ouais.
C'est pas la même époque en termes d'univers, mais il y a toujours cette petite guitare acoustique qui vient gratter un petit arpège tranquillou. Et finalement, ça tourne un peu autour de ça, mais d'ailleurs, là-dedans, on retrouve un petit peu justement le style de la BO de Brokeback Mountain, légèrement. Et pour la prochaine œuvre, alors, je vous avouerai que c'est moi qui l'ai choisi, un peu en connaissance de cause, on va dire, parce que c'est un jeu que je n'ai pas fait, mais qui s'est fait bâcher, hein, il faut le dire, à sa sortie. Un jeu qui a pourtant une BO vraiment très 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 bonne, et c'est pour ça que j'ai choisi The Ego Room, le morceau qu'on va écouter tout de suite, et qui est issu de Remember Me. Alors, les gars, Remember Me, il s'est fait bâcher, est-ce que vous êtes d'accord ou pas?
Je suis totalement d'accord. Enfin, il s'est pas fait bâcher, en fait, il s'est fait aduler par la presse française, parce que c'est des Français qui l'ont fait, donc forcément, quand c'est des Français qui l'ont fait, on est tout de suite plus cool, hein, CF, l'exemple From Dust. Remember Me, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé des lives dessus, j'ai regardé des copains y jouer en direct, et même en y jouant pas, ça a été une grosse déception. Tout simplement parce que ce jeu, je l'attendais beaucoup, quand j'ai vu les concept art, quand j'ai vu les artworks, quand j'ai vu ce qu'ils pouvaient faire au niveau direction artistique, j'étais en train de baver parce que ça donnait vraiment super envie. Il y avait une ville qui était magnifique, le côté néo-Paris pouvait être très très sympa. La BO défonce, tu l'as dit. Le problème, c'est que, alors je sais pas ce qu'ont fait les mecs de Dontnod, mais ça tombe dans tous les problèmes des AAA d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait ils ont fait un jeu en couloir. Mais du coup leur système de level design est tellement en couloir que leur ville, qui est magnifique, devient totalement incohérente. C'est-à-dire qu'on a des rues, on sait pas pourquoi elles sont là, quoi, parce que juste les mecs ont fait, bon les gars, on va faire un couloir comme ça, donc foutez une rue. Mais dans une ville normale, la rue elle pourrait jamais être là, c'est pas logique, quoi. C'est des mecs qui grimpent des immeubles, tu t'as un immeuble en plein milieu d'un endroit, tu sais pas pourquoi, enfin c'est... Et puis surtout, il y a un truc totalement aberrant, c'est que le jeu est tout le temps en train de nous dire où il faut aller. Mais vous savez, des fois, dans n'importe quel jeu, enfin dans Assassin's Creed, dans Call of Duty, dans n'importe quel FPS, t'as des flèches qui te disent, tiens, t'as ton objectif à tel endroit. Bon, déjà, ça m'énerve un peu, mais ça me choque pas plus que ça. Le problème, c'est que dans Remember Me, il y en a partout, et tous les 2 mètres. Mais quand je dis tous les 2 mètres, c'est vraiment tous les 2 mètres. C'est-à-dire que t'es suspendu une corniche, t'as un mur de l'autre côté, t'as une flèche qui va te dire, saute de l'autre côté du mur. Tu ne peux pas aller autre part parce que c'est un couloir, mais t'as quand même une flèche qui te dit saute là. Quand t'as des tuyaux électriques avec de l'électricité, tu vois bien que c'est de l'électricité, c'est grésille. Tu sais que si tu vas dessus, tu vas crever, quoi. C'est ton instinct de joueur, il sait que si tu vas sur l'électricité, tu meurs, quoi. Enfin, c'est normal. Mais non, c'est marqué danger en gros sur le truc. Et pendant tout le jeu, il y a ça et c'est jamais désactivable. C'est affreux, c'est insupportable. T'as l'impression de jouer à un jeu où on te prend vraiment pour un assisté, quoi. C'est insupportable. En plus, le système de combat est complètement con. C'est un espèce de pot pourri de tous les problèmes des AAA actuels, et c'est insupportable parce qu'il y avait une telle direction artistique une telle attente autour de ce jeu et un tel potentiel que c'est une des plus grosses déceptions depuis Assassin's Creed 3 pour moi, quoi. C'est assez phénoménal, quoi.
On va essayer de vous donner quand même un petit peu envie malgré ça, grâce à la musique.
Ça sent la rage dans mes paroles, là.
Ouais, un petit peu. Donc la musique, donc on rappelle un morceau qui s'appelle The Ego Room, un morceau qui est à mi-chemin un peu entre la dubstep, la musique classique, qui finalement le concept même d'un néo-Paris est totalement exprimé dans la musique, avec donc Paris qui est la ville lumière, qui est la ville du French Cancan, du cabaret, de la grande musique et tout ça, et à côté vraiment du futurisme poussé à l'excès avec le dubstep, avec un truc très très rythmé, très très électronique. Donc, et le mélange des deux marche super super bien, donc vous allez l'entendre dans ce thème The Ego Room. Le jeu s'appelle Remember Me. Thème frénétique The Ego Room de Remember Me. Le jeu est donc peut-être un petit peu moisi, je n'ai pas testé, mais Victor vous l'a confirmé, mais la musique, en toute honnêteté, déboîte sa race vierge. Et on va continuer dans la musique qui déboîte, mais celle-là elle est quand même vraiment, voilà, c'est un remix, c'est une musique qui date un petit peu, qui a une bonne vingtaine d'années à vrai dire, mais j'ai choisi cette musique parce que déjà je suis nostalgique du jeu d'il y a 20 ans. Il s'agit de Zelda A Link Between Worlds, donc la suite sur 3DS de A Link to the Past, et c'est une reprise en la BO est très très similaire à celle de A Link to the Past en toute logique, et mais très très remixée, voilà, des reprises avec des instruments quand même un peu plus conséquents et tout ça. Et donc là vous entendez une reprise du Sanctuary Dungeon, donc les donjons dans le monde de la lumière, beaucoup plus ambiant je trouve, bah forcément avec les moyens d'aujourd'hui, beaucoup mieux amené. A Link Between Worlds, un jeu qui a plus ou moins fait l'unanimité, est-ce que vous y avez joué vous les gars?
Bah moi j'ai pas de 3DS donc j'ai pas pu y toucher, même s'il me tente plutôt bien, même si en même temps j'ai l'impression que ça surfe un peu trop sur la vague A Link to the Past et que ça essaye peut-être un peu trop de recopier son illustre aîné.
Moi j'ai une 3DS mais j'ai pas d'argent donc... Envoyez vos dons par PayPal ou...
Vous pouvez envoyer des dons à Original Soundbloggers aussi. Si jamais vous envoyez un petit message, je le rappelle, sur Facebook, sur Twitter, sur Gameblog, sur iTunes, sur Podomatic, on est un petit peu partout maintenant. Donc en tout cas, message voilà, sur le Facebook d'Original Soundbloggers, sur notre Twitter, @OSBPodcast.
Si vous voulez nous payer un kebab,
oui, tout à fait, un kebab ou des dons pour des jeux ou pour des OST, allez-y, faites-vous plaisir, on prend tout, nous on est des fous. Bon, on va peut-être pas s'attarder hein, sur la BO de Zelda, parce qu'on l'a dit, elle était un peu similaire à Link to the Past, donc elle date un peu d'il y a 20 ans. Et on va passer à la prochaine musique qu'a choisi Onink dans son top des meilleurs OST de 2013. Une musique que j'ai du coup écoutée, que je ne connaissais pas et que j'ai vraiment adoré aussi. C'est un jeu qui s'appelle Bravely Default. La musique s'appelle Serpent Eating the Ground. Mais il est sorti Bravely Default ou il est pas sorti encore? Je crois pas.
Eh bien, figure-toi qu'il est sorti le 6 décembre ou le 7. Donc c'est tout récent.
Bah voilà, on est en train de. Le jour où on enregistre là, tel qu'on vous parle, on est le 8 décembre. Donc effectivement, c'est pour nous, c'est sorti hier. Hein,
donc voilà, en une journée, j'ai le temps de le finir dans tous les sens, forcément. Non, donc voilà, c'est encore un jeu 3DS. C'est peut-être celui qui me fera acheter la console d'ailleurs. Déjà rien que pour sa direction artistique splendide, signée Akihiko Yoshida, que j'adore pour son travail sur tous les jeux que j'aime bien, que ce soit Vagrant Story, FF Tactics, les Matsuno. Oui, Bravely Default, un RPG acclamé qui est sorti il y a bon bout de temps au Japon. Et des RPG vraiment adulés comme ça, ça court pas les rues récemment. Je ne saurais que vous conseiller de l'acheter, ne serait-ce que pour encourager la localisation de ce genre de jeu. Parce que, oui, voilà, des RPG, même sur les consoles next-gen qui vont sortir, il n'y en a pas des masses, si ce n'est zéro. Donc en ce qui concerne la musique, elle a été composée par Revo du groupe Sound Horizon, que je ne connaissais pas du tout. Et ça a été une belle surprise. En fait, c'est un mélange de rock très péchu, avec des thèmes orchestraux plus classiques, mais tout aussi réussis. Le morceau que j'ai choisi appartient à la première catégorie, donc il s'agit tout simplement du thème du boss final du jeu. Ils ont envoyé du bois, puisqu'à l'arrivée, on a un morceau très rythmé, très long, avec une variété dans l'intensité des phases du thème, des vrais moments de bravoure. Donc de quoi conclure brillamment le jeu avec un thème bien bien épique.
Effectivement, très très belle BO, qu'on va vous proposer donc d'écouter un petit extrait. Bravely Default, le morceau, c'est donc le morceau du boss de fin, Serpent Eating the Ground. On se retrouve ensuite pour la suite de notre bilan 2013. À tout de suite. Et tandis que Victor nous faisait souligner qu'il avait enfin mis un jeu AAA dans la sélection avec la présence de The Last of Us, et il a complètement raison de le souligner, nous revenons pour continuer cet Original Sound Bloggers sur le bilan de l'année 2013 en musique. Vous venez donc d'écouter un morceau de Bravely Default présenté par Onink, et on va continuer encore avec du Victor un petit peu, avec deux morceaux de Victor, en tout cas proposés par Victor, Guacamele, on va commencer par celui-là, Guacamele, le morceau s'appelle Deserto Caliente. Guacamele, enfin moi j'y ai pas joué, mais il a l'air sexy quand même.
Ah, il est très très sexy. Bah déjà parce qu'il a un pitch qui n'est pas une brioche, mais qui est très cool.
Oh putain.
On l'a celle-là, pardon. Et il a un pitch qui est assez sexy. En gros, on joue Juan, qui est un luchador mexicain, et qui doit aller chercher la fille del presidente qui s'est fait enlever par les morts. Juan, donc, est un catcheur. Il a la possibilité de faire des tricks de catcheur mexicain et de se transformer en poulet. Et de changer de dimension. Et en gros, donc déjà, ce jeu a un design génial avec un design très très coloré qui respire la joie de vivre et la bonne humeur. C'est un Metroidvania, dans la ligne classique de ce genre de jeu, et qui a une BO qui défonce parce que bon Dieu, ça fait du bien d'avoir des BO aux influences sud-américaines un peu. C'est vraiment la BO mexicaine typique, mais hyper joyeuse, hyper festive. Et moi, ça, enfin, j'ai trouvé ça super cool parce que c'est assez rare. Ça met la pêche quoi, quand tu l'écoutes.
Ah, totalement. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Rayman Legends. Il y a tout un niveau comme ça, tout un tableau de Rayman Legends, un peu dans ce style-là, justement, mexicain, avec des têtes de mort et des catcheurs et tout ça, avec une BO assez similaire, enfin une partie de BO assez similaire à celle de Guacamele. Donc voilà, Rayman Legends, finalement, on s'y retrouve un petit peu aussi dedans. Mais ouais, c'est vrai que ça, rien que quand on en parle, ça donne envie. Écoutez, on va continuer avec ce fond magnifique mexicain, ay 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 caliente. Et la suivante, c'est encore donc Victor, on l'a dit, avec une BO sur laquelle il a beaucoup insisté, parce que il faut le dire, il nous en a proposé beaucoup des morceaux de cette BO, Victor. Notre dévolu s'est porté sur un morceau qui s'appelle Moisture Deficit, et c'est un jeu qui s'appelle Risk of Rain. Alors, bah, Victor continue à user de ta salive pour nous présenter ce splendide Risk of Rain.
Alors, Risk of Rain, c'est un roguelike. Il y a pas mal de roguelikes qui sortent chez les derniers en ce moment, c'est un peu la mode. Mais Risk of Rain est arrivé à se démarquer par pas mal de points. Notamment par son système de difficulté qui est assez cool. Vous jouez un cosmonaute, une espèce de cosmonaute qui doit aller sauver des planètes en gros. Et vous avez 6 niveaux dans le jeu. À chaque niveau, il faut arriver dans le niveau, choper les items, trouver le téléporteur du boss, activer le téléporteur pour appeler le boss. Lorsque le boss est activé, il faut tenir 90 secondes, survivre pendant 90 secondes, ensuite buter le boss, buter tous les ennemis du niveau et se barrer. Donc ça a l'air simple comme ça, sauf que c'est très très compliqué. Et en fait, le truc qui est génial, c'est que il y a plusieurs niveaux de difficulté. Donc ça commence en very easy, easy, normal, hard, hardest, impossible, insane, I see you, I coming for you, et le dernier niveau de difficulté c'est ha ha ha. Déjà ça annonce la couleur. Et en fait le truc qui est cool c'est que les niveaux de difficulté varient en fonction du temps. En fait c'est à dire que les 5 premières minutes ça sera en very easy, les 5 minutes d'après ça sera en easy, et comme ça toutes les 5-10 minutes ça va augmenter. Tout le jeu joue sur est-ce que je vais aller chercher le maximum d'items mais du coup la difficulté va augmenter. Mais vu que je vais avoir des items, je vais peut-être avoir du bol et arriver à tomber sur des items super puissants et comme ça arriver à buter le boss, ou est-ce que je rush pour arriver à avoir le moins de difficulté possible pendant le truc, mais je vais aller sur le boss à poil, donc je vais me faire défoncer. Et c'est super dur, moi j'ai commencé à jouer sur la partie d'un pote, je me suis fait éclater la gueule en very easy, mais un truc de fou quoi. Et en fait ce jeu a été financé par Kickstarter, les mecs ont explosé le plafond, et ils ont fait un truc assez intelligent, c'est que étant donné qu'ils avaient presque fini le jeu, que leur truc était assez avancé, ils ont utilisé pas mal de l'argent supplémentaire pour arriver à trouver un compositeur badass. Et ils sont tombés sur un grec qui s'appelle Chris Christodoulou, qui a fait une OST de fou furieux. Donc que je vais vous laisser écouter et que moi j'ai trouvé vraiment de très très bonne qualité. Et puis pour la petite anecdote, en fait les mecs ont mis le jeu sur Steam Greenlight un peu pour le fun en se disant ouais bon voilà on va voir. Sauf que le truc a été greenlighté en 2 secondes et du coup les mecs ont pas prévu leur mode multijoueur, du coup c'est du multijoueur par IP.
Ah ouais.
Enfin je sais pas vous en pensez quoi de la BO de Risk of Rain, parce que moi je trouve que ça me rappelle un peu Sword and Sorcery en fait dans l'unité du truc.
Ouais, un petit peu, ouais.
C'est très électro, et en même temps, c'est assez, il y a des notes assez graves, assez profondes, etc., avec un petit côté un peu rock.
moi c'est vrai qu'elle m'a pas transcendé non plus, c'est pas forcément les styles qui m'intéressent le plus. Après effectivement bah, le morceau qu'on va écouter en l'occurrence Moisture Deficit m'a beaucoup plu, voilà, c'est un morceau qui est assez complet, qui rentre petit à petit, qui s'annonce et qui finit par bien casser la baraque. Il y a un peu de... voilà, c'est très très bien amené, c'est très ambiant. Non, vraiment c'est une très belle œuvre et ça, je te remercie de nous avoir fait découvrir ça.
C'est clair, je connaissais rien du jeu non plus, mais c'est vrai que l'OST est vachement stylé, très chiadé, avec des passages à la guitare assez énormes. Surtout dans la musique qu'on va diffuser, c'est vraiment une BO qu'on va écouter avec plaisir sans forcément avoir joué au jeu. Non, c'est impressionnant.
Allez les gars, ben, nous chers auditeurs, nous ce qu'on vous propose, c'est de vous faire partager cette magnifique découverte, Risk of Rain. Le morceau s'appelle Moisture Deficit. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, on arrive à la fin de ce 11e épisode d'Original Soundbloggers consacré au bilan de l'année 2013, puisque nous sommes en décembre 2013 et que bientôt ce sera l'année 2014 et qu'on passera à autre chose. Donc vous venez d'écouter Risk of Rain, j'espère que la BO vous a plu autant que nous, que vous pourrez remercier Vicpor sur Facebook, sur Twitter et ailleurs. Nous allons donc terminer avec une dernière musique de fond que j'ai moi-même choisie d'un jeu qui a pas mal fait bander les gens, les possesseurs de Wii U au moment de sa sortie, en tout cas au moment des bandes annonces. Un jeu qui s'appelle The Wonderful 101, un Pikmin-like, on va dire, avec des super-héros. Donc vous contrôlez les super-héros, vous avez accès à leurs pouvoirs, donc un jeu sorti sur Wii U. Moi que j'ai trouvé vraiment très très sympa, j'ai mis beaucoup de mal j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le gameplay. La prise en main était un peu difficile, très difficile même. Les personnages, forcément, bah, comme c'est un Pikmin-like, ils sont très petits sur l'écran, c'est pas toujours évident. Mais au fur et à mesure du jeu, on se prend vraiment dans le gameplay, on se prend vraiment dans la diversité des pouvoirs qu'on nous offre. Le scénario est quelconque, mais plutôt sympathique. Les missions aussi. Donc finalement, c'est un jeu qui se laisse faire, et puis arrivé à la fin, quand on passe tout son dimanche à essayer de finir le jeu entre 13h et 19h, on se dit, bah, ce jeu était bien. Donc oui, Wonderful 101, plutôt bonne découverte. Après, niveau OST, vous l'entendez en fond, c'est quelque chose de très orchestral, de très commun et très convenu maintenant. On en a parlé tout à l'heure avec, je sais plus quel jeu d'ailleurs.
Soul Sacrifice. Voilà.
On en a parlé tout à l'heure avec Soul Sacrifice, hein, des musiques un peu surfaites à la blockbuster. Wonderful 101, elle est un peu de cet acabit-là, mais très intéressante. Hein. On entend un morceau derrière qui s'appelle Intertwined, plutôt bien foutu, bien léché. Donc les possesseurs de Wii U, je pense qu'il faut vraiment qu'ils se penchent sur ce Wonderful 101. Même si c'est pas le jeu de l'année, ça reste un jeu correct et il y a moyen de bien s'amuser dessus. Donc c'est le moment pour moi et pour nous de vous dire au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt. Joyeux Noël à vous, joyeuses fêtes. On se retrouve donc en 2014, soit en janvier, soit en février. Hein, on va peut-être prendre des vacances nous aussi. Victor et Onink, comme d'hab, merci d'avoir été là, d'avoir pris du temps pour enregistrer l'émission, pour la préparer.
Mais de rien,
pas de problème. C'était cool, comme d'hab.
Et joyeux Noël à vous, les gars.
Mais merci.
Joyeux Noël.
On s'offrira des petits cadeaux et puis on verra ce qu'on se sera offert. Et donc on va se quitter. Déjà en vous rappelant que ce podcast est disponible en exclusivité sur le gameblog de Poulpy Blast, puis le lendemain sur iTunes et sur Podomatic, donc évidemment sur le nom d'Original Soundbloggers. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter @osbpodcast. N'hésitez pas à nous envoyer, comme d'habitude, hein, des messages, des recommandations, des j'aime pas. Et on va se quitter avec une des BO phares de l'année 2013, un des jeux phares d'ailleurs de l'année 2013 pour tous fans de RPG qui se respectent. On pouvait pas l'oublier, celle-là, je pense, et c'est Onink qui nous en a fait part. C'est un thème de Ni no Kuni et la vengeance de la sorcière céleste. Bah, c'est le thème de World Map. Vraiment très très belle BO, Onink.
Oui, voilà, donc Ni no Kuni, on avait déjà parlé. Donc c'est un jeu fait par une sorte de Dream Team, donc les studios Ghibli associés à Level 5, pour nous pondre le nouveau Dragon Quest 8. Je n'ai pas pu y toucher malheureusement, mais l'OST signé Isaichi est un vrai bijou, notamment le thème de la carte du monde qu'on va diffuser, qui est vraiment, vraiment grandiose, comme tu le disais, c'est une vraie invitation à l'aventure. Donc après, bon, tous les morceaux ne sont pas de cette qualité-là, évidemment, surtout par rapport à certains films Ghibli qui restent quand même supérieurs musicalement, mais bon, ce thème-là, c'est carrément un chef-d'œuvre.
Oh, ouais, moi je trouve quand même que Isaichi tient ses promesses, hein, dans l'ensemble, sur cette BO.
D'accord. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas une si belle carte du monde aussi, quand même. Je tiens à le signaler.
C'est vrai.
Encore merci à tous de nous avoir écoutés, les amis. On se donne rendez-vous en 2014 pour le 12e épisode d'Original Soundbloggers. D'ici là, écoutons cette musique de Ni no Kuni et surtout, portez-vous bien. Ciao ciao.
Salut.
Salut.
Thank you.